J'ai peur qu'ils les rendent impuissants, les pieds fragiles. Sur nos jardins foulés, connais-tu le lieu où s'armaient les épaules, les poings pour se cogner au leurre et le courage de comprendre l'effort et nos bruits d'aubaine. Tout soledad no puedo llevar, tout tristeza. Connais-tu les poids que tu dois soulever, les mois qu'il te faut travailler pour écaler la confiance des forts? Connais-tu les mots qui consolent les faibles, les fleurs pour apaiser nos larmes et la saveur qui nous relèvera et nos preux d'aubeur? Tout soledad no puedo llevar, tout tristeza.
Il est 20h35 et vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, l'heure de Zoom Écologie, une émission hebdomadaire où on ne parle presque que d'écologie. Aujourd'hui, c'est le troisième jeudi et avec Laurence, Cyril et moi-même, on va faire le point sur la question des OGM en compagnie d'Éric Meunier de l'association reconnue d'intérêt général Info OGM. Nous écouterons également le groupe June et Jim, dont on vient d'entendre un premier titre et qui nous parlera de leur prochain album et de leur prochaine date le 26 au Sentier des Halles. Voilà, avant le jingle, j'ai juste le temps de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe du troisième jeudi, une année pleine de belles choses et d'alternance politique surtout. Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour Laurence.
Bonjour Alexandre.
Bonne année, ça va ?
Excellente année à toi.
Merci.
Une année verdoyante.
Ouais. Bonjour Cyril. Bonne année. Voilà, et ben c'est notre première émission de l'année, le troisième jeudi. Et on avait envie d'attaquer l'année sur un sujet dont on parle, mais dont on parle finalement pas encore beaucoup, assez, toujours, comme d'habitude. On en parle un peu dans cette émission. J'ai vu qu'il y a quand même quelques émissions, quelques autres jeudis qui en ont parlé durant l'année 2011. On avait envie de parler, de faire un point sur la question des OGM.
D'autant plus qu'on a appris depuis peu qu'il y avait des OGM cachés.
Alors on va peut-être en parler, dans cette émission, les OGM cachés. Ça paraît intéressant effectivement pour capter l'attention des auditeurs. En deuxième partie d'émission, nous vous parlerons des OGM cachés, si vous restez. Voilà, et bien pour en parler, quoi de mieux que d'inviter cet organisme d'information, une association reconnue d'intérêt général, messieurs, dames, depuis 2008, Info OGM, et nous avons la chance d'avoir avec nous Éric Meunier, qui en est le directeur général. Bonjour Éric.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Ça va, bonne année à tout le monde. Alors.
Merci, bonne année.
Excellente année, sans OGM peut-être ?
Alors, évidemment, on pourrait commencer l'année comme ça. Ça pourrait être la première question. D'ailleurs, est-ce qu'on va passer une année 2012 sans OGM, Eric ?
Ah, c'est la grande, grande question. Là, la balle est dans le camp du gouvernement, puisque pour ceux qui ont suivi, alors jusque fin 2011, il y avait une interdiction de mettre en culture le seul OGM en Europe qui peut être cultivé parce que disponible, qui est le maïs mont 810. Et depuis 2008, le gouvernement avait interdit la mise en culture de ce maïs. Mais cette décision d'interdiction a été levée en fin 2011 par le Conseil d'État, qui a considéré qu'elle n'était pas légale. Et donc le gouvernement, enfin le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Environnement et même le président de la République, depuis, ont affirmé que le gouvernement restait opposé à cette mise en culture et donc qu'il voulait reprendre une décision d'interdiction qu'on attend pour les semaines à venir, on ne sait pas trop quand.
D'accord. Donc on est en plein dans l'actualité en fait.
Tout à fait, comme toujours finalement.
Comme toujours. J'aimerais qu'on commence par la base de la base, Eric. Rappelez peut-être les avantages et les inconvénients de l'OGM. Est-ce qu'on peut être pour ou contre les OGM ? Pourquoi ?
Alors, il va falloir être synthétique.
Oui, j'attends un peu ça de vous, nous n'avons qu'une heure.
Pour être synthétique, alors rappelez d'abord que OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Donc les OGM peuvent être des plantes, comme ça peut être des animaux, des micro-organismes. Le sujet qui nous intéresse principalement, c'est les plantes. Et pourquoi génétiquement modifié ? Parce qu'en fait, c'est des plantes dont le patrimoine génétique a été modifié. L'idée des plantes transgéniques, pourquoi transgénique ? C'est parce que ça fait appel à la technique de transgénèse qui a pour idée d'apporter un gène étranger à la plante. En gros, tout organisme, que ce soit nous, que ce soit les plantes, que ce soit les micro-organismes, bref, tous les organismes vivants, toutes nos cellules, on possède de l'ADN qui est organisé sous forme de gènes, eux-mêmes organisés sous forme de génome. Là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ces notions-là. Et en fait, chaque gène a la capacité de produire une protéine qui va remplir une fonction dans l'organisme. D'accord. Ça va donner la couleur de nos yeux, ça va nous donner des ongles, ça va faire qu'on va avoir un foie qui fonctionne correctement, des globules rouges, bref, tout ça. L'idée chez les plantes, c'est de prendre quelques plantes et de leur apporter un gène étranger qui va leur donner une caractéristique supplémentaire. Caractéristique supplémentaire qui n'existe pas forcément naturellement chez les plantes. Donc pour reprendre l'exemple typique du maïs mont 810 qui tient à l'actualité en ce moment, en fait les scientifiques pour les entreprises ont été chercher un gène qui existe dans une bactérie et qui, une fois inséré dans la plante, donne à cette plante la capacité de résister à des insectes. Quand les insectes attaquent cette plante, parce qu'elle produit une protéine insecticide. Vous avez d'autres plantes, elles, la caractéristique qui va leur être donnée, c'est de pouvoir tolérer des herbicides. En gros, quand un agriculteur arrive et qu'il asperge son champ avec de l'herbicide, les herbicides qui sont dits totaux, normalement détruisent tout, et donc ils vont tout détruire, sauf la plante dont le génome aura été modifié pour résister à ces herbicides. De cette notion de base découlent les avantages et les inconvénients, ou alors on va dire les critiques positives ou les critiques négatives qui sont liées. Dans le cadre des critiques positives, ça relève, c'est les entreprises évidemment qui se positionnent beaucoup sur ce terrain. Leur affirmation est que finalement, c'est les plantes transgéniques suivent un peu l'évolution de ce qu'a été l'agriculture depuis les années 50, c'est-à-dire faire rentrer dans le domaine de production de variétés des techniques qui viennent de laboratoires, des connaissances issues de la génétique. Aujourd'hui, toutes les plantes sont améliorées régulièrement parce que les plantes, pour pouvoir être cultivées, pour l'agriculture, ont besoin d'être renouvelées en quelque sorte. On ne peut pas fonctionner tout le temps avec les mêmes plantes. Dans le domaine du transgénique, finalement, la transgénèse est un des outils que les entreprises utilisent. Alors, d'accord. Dans les promesses ou les critiques positives, ce qui est mis en avant, par exemple, pour les plantes qui vont permettre de tolérer des herbicides, les entreprises expliquent que ça va permettre de raisonner l'utilisation des herbicides. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une utilisation d'herbicides massive, les entreprises expliquent que, on va pouvoir avoir, même si on utilise des herbicides totaux, l'utilisation va être sélective, raisonnée, pas systématique, parce que l'utilisation va être plus propre, entre guillemets. Par rapport aux insectes, le raisonnement est un peu le même. Le fait que la plante produise elle-même l'insecticide fait que l'agriculteur n'aura pas forcément besoin de rajouter un insecticide sur son champ, donc d'asperger d'insecticide pour tuer tous les insectes ou parasites qui viennent sur les plantes.
Ça, c'est ce que dit la publicité derrière la boîte de graines.
Alors oui, voilà, c'est le discours des entreprises. Ces deux critères, en général, se résument sous forme de ce qu'on appelle l'amélioration du rendement. Les entreprises parlent que ces plantes permettent d'améliorer le rendement. Voilà, c'est une des critiques positives de ces plantes. Après, une critique positive assez courante, qui, moi je le dis, mais je n'ai jamais vraiment considéré que ça voulait dire grand-chose, c'est que c'est le fruit du progrès. Voilà, on est dans une société qui avance dans le progrès, coûte que coûte.
C'est un petit peu comme le nucléaire, finalement.
Oui, on le retrouve dans beaucoup de domaines. En fait, il y a une sorte d'adage. Moi, quand j'étais étudiant en biologie, moi-même, j'y croyais. Alors, finalement, avec le temps, on revient sur ses propres convictions. L'adage qui dit que, finalement, seule la science est capable de résoudre les problèmes que la science a elle-même posés. Et donc, que finalement, chaque technique peut éventuellement poser des problèmes, mais que c'est une autre technique qui va venir les résoudre. Alors, voilà, ça, c'est l'introduction pour le débat sur les OGM cachés de tout à l'heure, histoire de garder les auditeurs au chaud.
Ah, ils sont tendus, là, ils sont tendus.
Oui.
Mais dans les faits, là où il y a eu des cultures d'OGM à grande échelle, je pense à des exemples en Chine ou en Inde, on s'est aperçu que les deux fonctions pour lesquelles ces OGM, ces plantes OGM avaient été vendues, que ce soit herbicides ou insecticides, ça avait des conséquences finalement qui ne répondaient même pas à cette publicité-là.
C'est sûr que les promesses qui sont faites, de toute façon, ne sont jamais, mais ça, quel que soit le domaine, ne sont jamais vraies à 100%, ou du moins ne durent jamais dans le temps de manière éternelle. Dans le cas dans le plan des OGM et des plantes transgéniques plus spécifiquement, ce constat de terrain rejoint une critique qui était faite et qui est toujours faite finalement par les opposants aux OGM, donc là pour le coup une critique négative, qui est de questionner le modèle agricole en lui-même que représentent les OGM, parce que les OGM nécessitent des intrants agricoles pour fonctionner, parce que c'est des variétés modernes, donc des variétés qui nécessitent qu'il y ait eu beaucoup d'engrais qui soient mis dans le sol, qui nécessitent obligatoirement l'utilisation d'herbicides, puisque vous les avez rendues tolérantes, c'est bien pour utiliser des herbicides. Donc par exemple, dans ces deux domaines, finalement, c'est le modèle de l'agriculture intensive qui fonctionne avec des intrants, avec les variétés modernes. C'est le seul domaine qui peut contenir les OGM. On comprend que ce n'est pas qu'une question d'idéologie, mais l'agriculture biologique qui utilise moins d'intrants et l'agriculture paysanne, par exemple, qui utilise des variétés paysannes et quasiment pas d'intrants, c'est des domaines, même en dehors de toute idéologie, qui ne peuvent pas utiliser les OGM parce qu'ils ne peuvent pas mettre d'herbicides sur leur terrain. Donc il y a cette notion finalement de questionner l'utilisation même d'herbicides ou l'utilisation d'insecticides et qui a été renforcée effectivement par les observations de terrain où par exemple pour les herbicides on voit que dans un pays comme les États-Unis qui utilise des OGM depuis milieu des années 90, pour certaines cultures ça peut atteindre 80 ou 90% des cultures qui sont présentes aux États-Unis, la quantité d'herbicides vendus, donc en toute logique, la quantité d'herbicides utilisés augmente dans ce pays-là. Donc finalement, le constat, la promesse d'utilisation de moins d'herbicides dans un pays si on utilise des OGM, le terrain montre que ce n'est pas forcément vrai. Dans le domaine de la résistance aux insectes, effectivement, il y a moins quand même d'insecticides qui sont utilisés. Mais le problème, c'est de savoir est-ce qu'on est dans une phase de transition ou pas. En gros, quand le premier point, c'est de savoir, on utilise moins d'insecticides. Très bien, on utilise moins d'insecticides sous forme aspergée sur le champ. Mais finalement, on a juste changé la source de l'insecticide. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu que l'insecticide soit issu d'un bidon que l'agriculteur va asperger sur son champ, il est directement dans la plante. Mmh. Donc, il est déjà dans le champ. Donc, finalement, la question éternelle, c'est de savoir est-ce que la quantité d'insecticide qui diminue n'est pas compensée par la quantité d'insecticide qui est déjà présente dans la plante. Mmh. Bon, ça, pour des raisons techniques, ce n'est pas facile d'y répondre, de savoir quelle quantité d'insecticide est présente dans la plante, mais c'est un sujet très technique. Mais le second problème, c'est que à trop tuer les insectes, les insectes, c'est comme tout organisme vivant, c'est-à-dire comme l'homme, comme n'importe quelle plante, comme n'importe quel animal ou quoi. Ils fonctionnent en population et ces populations, elles s'adaptent à leur environnement. Et en s'adaptant, elles évoluent. Et cette évolution fait que, au cas par cas, alors il y en a eu en Chine, notamment, il y a des insectes qui sont censés être tués par les protéines insecticides qui sont dans la plante. Et puis, un jour, il y a un insecte qui arrive et qui... Non, lui, il n'est pas tué. Et puis, il se met à avoir des descendants qui, donc, ne seront pas tués non plus. Et voilà, il peut... C'est ce qu'on appelle la résistance des insectes aux insecticides. Et le second problème, c'est que, finalement, même quand la plante est efficace à tuer les insectes ciblés par la protéine insecticide efficacement, ces insectes, comme tout organisme, encore une fois, ils interviennent dans une chaîne alimentaire naturelle, c'est-à-dire ce qu'on mange, par exemple, les animaux qu'on a mangés, eux-mêmes ont mangé soit d'autres animaux s'ils sont carnivores, qui ont pu manger des végétaux, qui ont pu manger dans une certaine façon des micro-organismes ou pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Mm-hmm. Finalement, quand on supprime un des acteurs de la chaîne alimentaire, l'acteur qui est en dessous, qui était lui-même mangé ou alors qui occupait pas un terrain parce qu'il y avait trop d'un copain et il voulait pas s'entendre sur le même terrain, lui il peut arriver à ce moment-là. Et donc l'agriculteur, en Chine encore une fois, ils l'observent, ils ont pu d'un insecte A parce qu'il a été complètement tué, mais c'est un insecte B qui arrive. Et le problème, c'est que l'insecte B, la plante elle résiste pas à cet insecte. Et l'agriculteur, lui, il n'avait pas acheté les insecticides ou il a pas les outils pour s'en débarrasser. Donc finalement, l'un dans l'autre, l'équilibre et les promesses des OGM sont pas
toujours présentes. C'est toujours une logique à très court terme, en fait, quoi. Finalement.
Voilà ce que certains... c'est aussi, pour certains acteurs, ce qui caractérise l'agriculture intensive. Mmh. On le voit, je ne veux pas parler de tout, par exemple, on sait que dans les variétés industrielles qui sont commercialisées aujourd'hui, et là, on n'est plus dans le domaine OGM, les variétés qu'on appelle les hybrides F1, qui sont les variétés que les semenciers vendent, c'est des variétés qui, quand l'agriculteur les plante la première année, elles fonctionnent bien. Et puis si jamais il voulait conserver une partie de sa récolte pour la replanter l'année d'après, il la replante l'année d'après, et puis là, la plante, elle est déjà moins en forme. Et puis la troisième année, là, elle n'est plus du tout en forme. Donc l'agriculteur, il est obligé de racheter initialement. Donc, ouais, c'est vrai que cette notion de court terme, c'est aussi un peu ce qui caractérise l'agriculture intensive. C'est un peu à l'image de la société, je crois, on fonctionne beaucoup dans le court terme.
D'accord. On n'a pas du tout parlé des risques, on l'a évoqué, mais les risques sanitaires, finalement. Est-ce qu'ils sont prouvés ? Est-ce qu'il y a des choses où on en est de cette recherche-là ?
Alors, les risques sanitaires, c'est-à-dire pour l'homme, si jamais on consomme des plantes transgéniques, alors il y a un gros, gros débat scientifique là-dessus. Mm-hmm. Si on regarde les études scientifiques, il y a des études qui montrent... la potentialité d'impact sanitaire sur la santé. Mmh. Alors en France, par exemple, il y a un toxicologue connu médiatiquement qui est Gilles-Éric Serralini à Caen, qui fait des travaux. Alors lui, pour les OGM, il réanalyse surtout, il a réanalysé les données que Monsanto avait fournies dans ses dossiers d'autorisation. Et lui, il a dit, moi, avec les mêmes données, finalement, ma lecture, c'est qu'il y a des risques pour la santé. Mais il s'est là, par exemple, dernièrement, il vient de sortir une étude. Lui, il s'intéresse plus au Roundup, qui est l'herbicide le plus utilisé dans le domaine des OGM, parce qu'initialement vendu par Monsanto, l'entreprise états-unienne, et que cette entreprise est celle qui vend le plus d'OGM. Donc évidemment, Monsanto, en toute logique, les variétés de plantes qu'elle modifie pour tolérer des herbicides, l'herbicide que les plantes tolèrent, c'est le Roundup. Comme ça, Monsanto peut vendre et les semences et le Roundup, une sorte de package. Voilà, le générique Serlini, lui, en s'intéressant par exemple aux herbicides et aux Roundup, montre qu'il y a des impacts sur la santé. Parce que quand on parle des OGM et des impacts sur la santé, il y a l'impact de la plante. Qu'est-ce qui se passe si je mange la plante transgénique, le fait qu'elle soit transgénique, qu'est-ce que ça fait pour moi? Mais il faut voir ça aussi dans un modèle agricole où la plante, si elle tolère des herbicides, elle a reçu cet herbicide. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les résidus de cet herbicide dans la plante? Là-dessus, la réponse courante est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu de plantes tolérantes des herbicides en Europe autorisées à la culture. Donc finalement, cette question d'évaluer les résidus d'herbicides dans la plante transgénique qui le tolère n'a pas encore été abordée.
D'accord.
Après, pour les autres questions d'impact sanitaire, je vais vous faire une réponse qui va permettre de ne pas y passer des heures et de comprendre un peu la philosophie. C'est que toute plante transgénique doit être autorisée pour être commercialisé, que ce soit pour être cultivé dans des champs ou même pour être mis dans nos assiettes hein, ou pour être mis dans l'alimentation des animaux. Cette autorisation, elle est donnée au niveau européen après évaluation de dossiers, de demandes d'autorisation qui contiennent des données scientifiques. C'est-à-dire les entreprises doivent conduire des analyses de toxicologie, d'alimentarité, de caractériser leurs plantes pour en gros donner à des experts européens et nationaux les données scientifiques qui montrent l'absence d'impact sur la santé ou l'absence d'impact sur l'environnement. Quand on prend le dossier du maïs Mont 810, nous, InfoGM, on a fait une chose assez simple. On a écrit à la Commission européenne en lui demandant est-ce que la Commission européenne, vous pouvez garantir au risque statistique près, parce que dans le domaine scientifique, il y a toujours une marge d'erreur qui est normale. Donc on leur a demandé est-ce qu'au risque statistique près, la Commission européenne peut nous dire que le maïs Mont 810 n'est pas toxique pour l'homme ? Considérant qu'il est quand même autorisé en Europe depuis 1998, hein, on s'attend à ce que la réponse soit oui pour telle raison, et voilà. Et finalement, à lire la réponse de la Commission européenne, elle ne peut pas garantir ça. Pour une raison technique qui est simple, et on le voit dans les avis des experts français aujourd'hui, dans tous les nouveaux avis qu'ils mettent, ils disent, on répond à la question qui nous est posée par le gouvernement, c'est-à-dire est-ce que pour telle plante transgénique ou telle plante transgénique, il y a des impacts sur la santé ou l'environnement? On va y répondre parce que je pense qu'ils se sentent obligés d'y répondre, mais une de leurs premières phrases, c'est de dire on rappelle que le dossier en l'état ne répond pas aux exigences européennes de constitution du dossier. En clair, les données qui nous sont fournies ne vont pas nous permettre de répondre à la question des impacts. Donc voilà, est-ce qu'il y a des impacts sanitaires ou pas?
D'accord.
Moi, la première question, c'est est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Or, en l'état, c'est loin d'être sûr.
D'accord.
C'est un point général, en fait, qui est assez étonnant. C'est que la recherche publique, n'ayant pas les moyens de mener ses études, de manière générale, les études de précaution avant une mise sur le marché sont effectuées par les entreprises elles-mêmes qui, elles-mêmes, fournissent ensuite les données scientifiques aux experts des agences nationales ou européennes. C'est un processus qu'on peut quand même très sérieusement mettre en doute, hein. En Inde, justement, un ancien responsable de Monsanto a dit publiquement que les données scientifiques fournies au gouvernement indien pour autoriser des mises sur le marché avaient été falsifiées. C'est lui-même qui l'a dit, mais c'est de manière générale pour les pesticides. C'est comme ça que les agences aujourd'hui travaillent.
D'accord. Ok. Et là, récemment, il y a eu une histoire sur un gros laboratoire, je ne sais pas comment on dit, un laboratoire de chimie allemand qui s'appelle BASF, qui a décidé de sortir du marché européen. Parce que le consommateur européen n'est pas prêt à consommer des OGM. Alors on voit bien que derrière ça, il y a toute une logique économique finalement. Donc le problème des OGM, c'est finalement un enjeu avant tout économique globalement.
Avant tout économique, c'est ça. C'est vrai, moi j'ai souvent, il y a encore quelques années, je commençais toujours mes conférences par les impacts sur la santé et l'environnement. Et puis aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de les terminer par ça, parce que je trouve que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans le dossier OGM. Une des choses qui caractérise le dossier OGM, c'est que si on prend les différents... alors la comparaison ne serait pas bonne, pas les différents scandales sanitaires, mais les différents problèmes de société qu'on a connus avec l'amiante, avec le bœuf aux hormones, les débats qu'on voit sur le nucléaire, c'est autant de situations de débat, quand on peut parler de débat, qui ont eu lieu après utilisation de la technique ou des produits. Dans le cadre des OGM, pour une des premières fois à ma connaissance, le débat qui s'est instauré fin des années 90 en Europe et en France 97, il est arrivé au moment où les OGM commençaient tout juste à arriver dans l'Union européenne en provenance des États-Unis. Mais ils n'y étaient pas encore. Donc on est dans un cas où finalement le débat public, la société civile a investi. Il y en a qui considèrent que même le politique a été forcé d'ouvrir le débat à la société civile du fait d'actions de Greenpeace, de la Confédération paysanne qui a raisonné des bateaux qui arrivaient avec du soja en provenance d'Amérique du Sud, transgénique. Il y a quand même des politiques qui avaient une oreille favorable à ce débat. Et donc, dans le cadre des OGM, le débat est arrivé avant les OGM. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que 15 ans plus tard, quasiment, commercialement, l'Union européenne n'a pas d'OGM dans l'Union européenne pour nous. La situation aujourd'hui, c'est que les animaux consomment beaucoup de plantes transgéniques parce qu'elles arrivent principalement sous forme de tourteaux de soja en provenance d'Amérique du Sud, par exemple. Mais dans nos assiettes, on n'a quasiment pas d'OGM. C'est-à-dire aucune entreprise aujourd'hui prend le risque de commercialiser des OGM pour l'alimentation humaine.
Ce que vous dites, c'est qu'on mange quand même des animaux qui ont mangé des OGM quand même.
Oui, alors c'est ce que je vais vous expliquer.
D'accord.
Finalement, le constat, c'est que les OGM aujourd'hui sont présents en Europe que dans le cadre de l'alimentation animale. Pourquoi ils sont présents dans le cadre de l'alimentation animale ? Parce qu'en Europe, les consommateurs, il a été décidé politiquement qu'ils devaient être informés de la présence d'OGM. Donc finalement, si on achète une boîte de maïs, si on achète une boîte, je ne sais pas moi, si pour ceux qui mangent des graines de soja, par exemple, des choses comme ça, il y aurait une étiquette « contient des OGM » ou alors « est produit à partir d'OGM » parce que c'est la législation qui impose cet étiquetage. Dans le cadre des animaux, ce que les animaux mangent...
Ils savent pas lire les étiquettes.
Alors, eux, ne savent pas lire les étiquettes, bien sûr, mais les éleveurs, eux, savent les lire. Et le marché est tel qu'ils n'ont pas forcément le choix pour les éleveurs qui achètent la nourriture pour les animaux. C'est OGM.
Ils n'ont pas le choix, donc l'animal... pour des raisons économiques, parce que c'est moins cher,
mais
ou parce qu'il y a que ça.
Tous les agriculteurs, tous les éleveurs ne sont pas forcément, par exemple, producteurs de soja pour faire des tourteaux, pour donner à leurs vaches ou à d'autres animaux. Donc ce qui se passe, c'est que ces animaux-là mangent des OGM, mangent du soja transgénique. Par contre, la vache, quand ça va être devenu du steak pour nous, ou du lait, ou je ne sais pas si les porcs mangent des OGM, les saucisses qu'on va en tirer, ou le saucisson, bref, quels que soient les produits, eux, la loi n'impose pas que ces produits soient étiquetés comme étant issus d'animaux ayant été nourris aux OGM.
Oui.
Donc finalement, commercialement, le marché de l'alimentation animale n'a pas été considéré comme fermé par les entreprises parce qu'il n'y avait pas en bout de course d'information du consommateur qui risquait de limiter la possibilité de commercialiser les produits. Pour les produits que nous, on mange, il y a cette obligation. Or, que les uns ou les autres contestent le principe de sondage ou pas, en tout cas, tous les baromètres d'opinion qui sont faits montrent qu'après, entre 60-80% selon qui les fait, dans l'Union européenne, les citoyens disent qu'ils ne veulent pas consommer d'OGM. Vous êtes une entreprise, vous commercialisez des produits, vous n'allez pas commercialiser des OGM.
Ouais.
Ou alors, sauf si vous ciblez 10% de la population ou 20%. Donc voilà, BASF aujourd'hui fait ce constat. Alors la forme qui est donnée à leur communiqué de presse, il y a plein de choses qui mériteraient d'être discutées. Mais voilà, en gros, moi, le communiqué de presse de BASF, je le lis comme... une entreprise qui est loin d'être un acteur majeur du dossier OGM. BASF, aujourd'hui, c'est 4 dossiers de demande d'autorisation en Europe. Pour Monsanto, vous en avez près de, je pense, une quarantaine, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, le rapport n'est pas le même. Mais BASF, voilà, dit, en gros, les OGM, c'est un échec commercial. Donc, on se retire.
En Europe.
En Europe.
Ah, d'accord. Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup de finesse dans le communiqué de presse de BASF. Ils ont mis beaucoup de précautions pour pouvoir revenir... en Europe, si jamais ça s'ouvre.
D'accord.
Donc, en parlant de précaution, justement, c'est ce que vous expliquez, c'est que finalement, ce sont les consommateurs qui ont décidé d'appliquer un principe de précaution avant même les politiques, hein, grâce à la mobilisation citoyenne.
Oui, bah, je ne sais pas ce qu'ont décidé les consommateurs, mais en tout cas, oui, ils ont décidé de ne pas, consommer d'OGM parce que finalement, bah, le débat montre qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'assurance suffisante qu'il y aurait même ne serait-ce qu'un intérêt pour nous à manger des OGM. À la limite, on pourrait se dire s'il y avait vraiment un intérêt, bon, faudrait qu'il soit bien prouvé, parce que l'agriculture en général, ça fait quand même des milliers d'années que l'agriculture et les agriculteurs produisent de la nourriture pour toute la population qui existe sur Terre. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même un sacré tour de force pour expliquer que bah, demain, la production de nourriture ne pourra se faire que par le biais des OGM. Donc oui, les entreprises promettent des avantages pour les agriculteurs, en bout de course pour les consommateurs, ils sont faibles. Par contre, une des seules convictions, une des seules choses qui avait bien été comprise dans le débat sur les OGM, c'est que par contre, financièrement, pour les entreprises, vendre des OGM, là, c'est intéressant. Parce que les OGM, les gènes qui sont insérés dans les plantes, ils sont l'objet de brevets. Et les brevets, bon, bah, ça, d'une manière ou d'une autre, c'est un atout financier pour une entreprise. Voilà, BASF, clairement, par rapport à Monsanto ou Syngenta, n'a pas effectué les mêmes investissements dans les OGM que les autres entreprises. Ils disent qu'ils ont investi 1,2 milliard depuis 10 ans. Pour les autres entreprises, je ne sais pas combien c'est, mais c'est beaucoup plus. Donc pour BASF, on va dire des entreprises qui font des OGM, aujourd'hui, c'est eux qui étaient dans la position la plus simple pour donner le change et penser qu'ils se retiraient de l'Union européenne.
D'accord. On va faire une petite pause, une belle pause musicale, comme dans chaque troisième jeudi de cette émission. Et aujourd'hui, nous accueillons un groupe qui est représenté par son duo, je ne sais pas comment dire, son duo leader, un peu, qui est le groupe June et Jim, et qui est représenté par Marion. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, c'était un duo... Et
Borja.
Voilà, bonjour. J'ai beaucoup de mal à le prononcer depuis la préparation de cette émission, donc je préfère laisser Maria prononcer ce prénom. Donc c'est un duo franco-espagnol.
Oui.
Qui existe déjà depuis quelques années quand même.
Qui existe depuis 2006.
Ah d'accord.
Voilà. Ça fait 6 ans. Depuis janvier 2006.
D'accord. C'est un duo qui se transforme en quintette de plus en plus sur scène maintenant.
Oui, qui s'est agrandi. Il y a plusieurs années déjà, il y a 3 ans. Et voilà, maintenant on joue en quintette sur scène la plupart du temps.
D'accord. Et donc des chansons à la fois en français, des compositions bien sûr, des chansons à la fois en français et en espagnol.
Oui, alors beaucoup plus en français.
Quand même, beaucoup de concerts en Allemagne. Alors pourquoi vous faites des concerts en Allemagne ?
Parce qu'on a trouvé le filon. Bien. Non, c'est-à-dire qu'on y allait la première fois et puis on a rencontré des gens et on y est bien.
Il y a un public pour la chanson française là-bas.
Et il y a vraiment un public pour la chanson française. En fait, je pense qu'il y a un public très ouvert, quelle que soit finalement l'origine de la chanson. Et c'est intéressant parce que ça montre complètement que la langue n'est pas du tout une barrière. Ce serait une illusion de croire qu'il faut chanter en anglais pour traverser les frontières, en tout cas certaines frontières, je pense. Donc on y retourne assez souvent. On est allé aux Pays-Bas aussi.
Bien.
Et en Espagne, mais il y a plus longtemps, on va y retourner bientôt.
D'accord. Alors comment, c'est la question un peu piège, mais pour chaque groupe, mais comment vous définiriez la musique que vous interprétez ?
Alors voilà. Merci. Plus piège
non, parce que sur le MySpace qui existe, hein, on rappellera l'adresse, on lit des choses sur le voyage, sur l'espace, les grands espaces, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on entend, tout ça, mais enfin, c'est très difficile à définir, hein, de toute façon.
Maintenant, on pourrait dire que c'est une musique tout d'abord acoustique.
Une musique acoustique, oui.
Il y a pas mal d'électricité aussi, mais principalement acoustique. On sait que ce soit une musique chaude qui se nourrit surtout un peu de la pop des années 60, 70, ou des blues des années 50, mais aussi de ce qui pourrait être les musiques traditionnelles de plein de pays. Surtout ce qui est Amérique du Sud.
On a écouté un premier titre tout à l'heure, avant le début de cette émission, qui sera un extrait de votre prochain album, puisque vous sortez un album le 26 mars prochain.
Oui, voilà. Et le titre qu'on a entendu est d'ailleurs celui qui donne son titre à l'album, qui s'intitule L'Effort.
L'Effort, d'accord, en deux mots.
En deux mots.
D'accord. Et pour être sûr de ne pas oublier, vous faites un concert la semaine prochaine, donc le 26 janvier, au Sentier des Halles à Paris.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? J'ai toujours l'impression d'être à l'école des fans. Qu'est-ce que vous allez nous chanter aujourd'hui? Est-ce que tu vas chanter? Est-ce qu'on va t'entendre chanter pour savoir comment je positionne le micro?
Oui, c'est d'accord. Mais
d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter
Alors, on va chanter Écoute, qui est une chanson qui est incluse dans cet album. Et voilà, qui est une chanson franco-espagnole.
Mmh. Et bien, justement, on vous écoute alors.
L'oiseau qui chante en pleine nuit. Écoute, c'est fini. J'entends crier qu'ils ont gagné la guerre. Y saldremos a celebrar sobre campos de batalla. Écoute, c'est fini. J'entends la marche de nos hommes qui reviennent. Écoute, c'est fini, j'entends qu'on commence à compter les morts. Y alzaremos la ciudad sobre campos de batalla. Je crois que cette fois on les tient, nos journées entières dans les arbres. On dirait qu'ils sont là déjà, nos jours interminables. Écoute, écoute, c'est fini, j'entends l'oiseau qui chante après la pluie. Écoute, c'est fini, j'entends partout murmurer la folie. Y nunca podremos sembrar esos campos de batalla. Je crois que cette fois on les tient, nos journées entières dans les arbres. On dirait qu'ils sont là déjà, nos jours interminables, nos jours interminables. Écoute,
June et Jim. Ah, c'est toujours un moment. Hein, on s'évade,
c'est,
Laurence.
C'est un
hein.
moment précieux.
Ouais. Ah, c'est
avec une chanson épique et pacifique en même temps.
Ouais. Exactement.
C'est chouette.
Donc, ça laisse sans voix un peu tout ça. Je vais juste rappeler que donc, votre album sort le 26 mars prochain. Ce sera l'anniversaire d'Anne et personne ne la connaît. Sauf June et Jim et moi-même. Et puis que vous serez le 26 janvier prochain, donc c'est quel jour de la semaine prochaine?
Jeudi
de la semaine prochaine au Sentier des Halles à 20h30.
Voilà, donc il faudra choisir entre Zoom Écologie et June et Jim en fait.
Oh. Ah oui, c'est ça, mais ce ne sera pas le troisième jeudi.
On peut toujours la réécouter sur Internet. Ah,
ça repasse le vendredi, ça passe sur Internet.
Ah d'accord, voilà. Donc
on
vous
peut podcaster Zoom Écologie.
La rediff alors.
Ça vous a plu, Eric?
Moi je suis toujours... Moi, je ne suis pas musicien pour un sou. Et pourtant, Dieu sait si j'aurais aimé pouvoir, cette manière de faire passer ce qu'on pense ou les émotions et tout. Donc moi, j'ai toujours une grande admiration. Ça ne veut pas dire que j'aime tout, mais même quand je n'aime pas, j'ai quand même une grande admiration pour les musiciens. Et là, en plus, il se trouve que je trouve que la mélodie et les paroles, c'est... C'est chouette, très très chouette. Hein.
Bon, et ben, ça nous a tous poussés, c'est super. Eric, vous, on a pas parlé, mais on va en parler très brièvement de Info OGM. Info OGM, ouais. C'est une association qui s'est créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant.
C'est ça.
Qui est dédiée à l'information et à la veille sur les OGM.
Exactement.
C'est ça. Donc vous êtes pas, vous n'avez pas une, je sais pas comment dire, mais vous n'êtes pas là pour prendre des positions. Vous êtes là pour donner l'information. C'est un peu ce que vous dites sur votre site.
Clairement.
Même si, bon, voilà.
En fait, nous, on se définit comme une veille citoyenne d'information critique sur les OGM. Alors, tout est dans le critique, hein, parce que d'accord. Longtemps, on a dit, vous êtes neutre, vous êtes objectif. Bah, et puis finalement, c'est des notions qui sont compliquées à remplir, hein, d'être neutre. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, surtout dans le domaine de l'information, rien que l'information qu'on choisit à passer ou pas passer, comment on la commande. Donc voilà, critique. Nous, notre rôle... Clairement, en tant que veille citoyenne d'information, il n'est absolument pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Nous, l'idée, c'est de, au moins, que chacun puisse avoir un lieu ou un interlocuteur qui donne les éléments factuels, qui donne des éléments de réflexion un peu contextualisés pour se construire sa propre opinion. Donc, c'est vrai que même avant, même le sujet OGM, c'est le sujet OGM qui a amené quelques acteurs comme alors, la Fondation Charles-Paul Meyer ou Greenpeace, OGM Danger, des structures comme ça à l'époque, à créer InfoGM. Donc c'est le sujet OGM. Mais finalement, derrière, la vraie volonté, c'est finalement d'avoir une approche de l'information un peu différente, qui ne soit pas soit comme les médias généralistes. C'est-à-dire, on n'a rien contre les médias, mais on sait qu'il y a, nous, une des différences qui nous caractérise par rapport aux médias généralistes, c'est que nous, on est sur un sujet. Mmh. Donc, on a une vraie spécialisation, pour certains, une expertise sur ce sujet-là. On n'est évidemment pas des agences de publicité, comme les entreprises peuvent avoir ou quoi. Donc, voilà, on est au milieu, c'est-à-dire pour la société civile, au service de la société civile, d'être une veille citoyenne d'information sur les OGM.
Vous
ne
faites pas partie d'un grand groupe de communication ou de bâtiments
Non. Bah, si nous, on est plutôt,
peut-être une plus grande indépendance, c'est liberté
Non, nous, on est un peu comme les groupes de musiciens qui essayent de s'en sortir avec leur musique face aux gros groupes qu'on voit passer à la télé ou je ne sais pas où. Voilà, c'est plutôt petit.
D'accord. Et comment ça fonctionne, une association comme ça alors?
Alors, une association comme ça, ça fonctionne avec les petits sous qu'on arrive à engranger avec les abonnements, par exemple.
Les abonnements, bulletin. D'accord.
Donc, on a un peu d'autofinancement. Ça fonctionne avec quand même des aides publiques parce que en montant une association comme ça, on va vous créer des emplois. Donc, y a les aides aux emplois, emploi tremplin ou autre. Et puis, ça fonctionne avec le soutien de fondations comme la Fondation de France, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, la Fondation pour une terre humaine, ouais, différents acteurs bailleurs de fonds qui soutiennent InfoGM tant pour son rôle dans le dossier OGM, voire même son rôle, encore une fois, en tant que veille citoyenne d'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire comprendre aux bailleurs que... Voilà, nous, une société qu'on aimerait ambitionner demain, c'est une société dans laquelle la société civile a son information et une information qui peut servir aux militants, qui peut servir aux citoyens qui veulent juste découvrir le sujet, qui peut servir aux politiques. Parce que c'est important, on se rend compte d'informer les politiques
aussi.
À tous les échelons, que ce soit au niveau européen, de la petite commune au département, région... Assemblée nationale, Sénat ou Europe, c'est très très important de les informer.
Et ça, c'est aussi dans votre rôle, du coup, excuse-moi Laurence, des actions de communication, du coup, vers ces gens-là.
Actions de communication.
C'est plutôt des actions pédagogiques. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir ça de l'extérieur, d'explication. C'est vrai que c'est une nécessité démocratique, surtout sur des sujets aussi complexes, des sujets scientifiques, économiques et qui ont des implications fortes pour l'environnement et la santé. Pour les citoyennes et les citoyens, d'avoir aussi des médiatrices, des médiateurs qui peuvent effectivement décortiquer l'information. Quant aux politiques, pour rebondir sur une information d'agenda, il y a justement le 2 février au matin un forum formation à destination des élus, mais aussi des citoyens, qui sera organisé à l'Assemblée nationale sur le sujet des OGM, des OGM cachés.
D'accord. Et on va aborder la fin de l'émission, donc il va falloir commencer à en parler, des OGM cachés.
Voilà, là, on n'aura certainement pas le temps de l'aborder, mais il y a un processus d'accaparement, on va dire, des semences paysannes, des semences du vivant par des industries qui cherchent aussi à empêcher les paysans de ressemer, de réutiliser ces semences, oui, qui brevettent. Oui. Donc tout ça, ce sont des sujets qui s'interpénètrent et qui concernent l'agriculture, mais qui nous concernent, nous, toutes et tous, que ce soit en France ou ailleurs.
Sur cette journée du 2 février, si les auditeurs ils veulent en savoir plus, il faut qu'ils aillent où là, sur
Alors, en fait, il faudrait qu'ils s'inscrivent...
Sur le site de l'Assemblée nationale, c'est marqué ?
À l'adresse d'Annie Poursinoff, donc la députée qui organise ce forum formation. D'accord. Et donc, l'adresse est apoursinoff@assemblée-nationale.fr.
D'accord, bon, on remettra l'info, l'information sur le site de Zoom Écologie. J'ai une question d'un auditeur, non ?
Ouais, on a eu un auditeur, un grand timide qui appelle jamais à la radio, qui posait une question, je ne sais pas trop comment l'amener là, mais il se demandait par rapport à cette norme dans, je crois que c'est dans le bio, de 0,9% d'OGM, qu'est-ce que ça implique vraiment concrètement sur ce qu'on consomme.
Oui, déjà, c'est un auditeur bien informé. Tout le monde ne le sait pas. Et alors, ce qui est très important, c'est que pour le bio, il y a différents labels. Il y a différents...
C'est normal, il écoute FEP.
En France, il y a le label... vous avez l'étiquette AB. Et vous avez aussi les organismes certificateurs, Ecocert, vous avez Nature et Progrès. Et puis, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a la réglementation sur le bio et le label bio européen. Et alors, autant en France, AB, Ecocert, Nature et Progrès, tout ça, comme certaines AOC, eux, ont clairement, dans leur cahier des charges, défini qu'il n'y aurait pas d'OGM. Donc, que ce soit 5%, 0,9% ou 0,2%, il n'y aura pas d'OGM dans ces produits-là. Par contre, pour les produits qui ont uniquement le label bio européen, qui est de
mémoire... C'est une sorte de pissenlit, en fait.
Voilà, c'est une feuille avec les étoiles de l'Union européenne. Ce label-là, lui, dépend de la réglementation bio européenne, qui est une réglementation donc, qui a été décidée à Bruxelles et qui, elle, effectivement, explique que jusqu'à 0,9% d'OGM, c'est accepté dans les produits qui ont ce label bio. Donc voilà, il faut faire attention
aux étiquettes.
Il faut faire attention aux étiquettes. Donc voilà, je ne sais pas si ça a rassuré l'auditeur, mais...
J'avais une question à vous poser. Je crois que c'est un souvenir d'un reportage que j'avais vu, c'est peut-être dans le film de Colin Serrault sur Petit Désordre ou Grand Désordre, je ne sais plus le titre de ce film. Qui raconte qu'en fait le maïs est une plante qui est à l'origine a pas besoin de beaucoup d'eau, mais qu'en fait les variétés qui ont été sélectionnées petit à petit par les industriels de, je sais pas comment appeler ça, les grandes entreprises ont sélectionné finalement les maïs qui sont les plus gourmands en eau pour finalement à la fin arriver à justifier l'introduction des OGM. Est-ce que c'est complètement pervers comme
Alors, il y a plein de choses dans votre question. Il y a des notions agronomiques et puis il y a des notions de stratégie d'entreprise. Alors, pour les stratégies d'entreprise, je ne sais pas. On a l'impression de la mise en place
de tout un système, finalement, pour arriver à sélectionner des variétés qui, finalement, auraient finalement besoin des OGM, en fait.
Oui, alors, il y a une réalité et qui est une des réponses. C'est, est-ce que le maïs qui ont été sélectionnés et qui sont aujourd'hui vendus par les entreprises semencières sont très gourmands en eau ou quoi ? Plus que les variétés... de base, enfin paysanne ou autre, ça je ne saurais pas vous dire. On sait que le maïs consomme beaucoup d'eau, ça il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Après, moi, que ce soit pour le maïs ou pour d'autres, moi en venant je lisais une actualité qui concerne justement BASF tiens, et Monsanto, et qui aux États-Unis viennent d'obtenir une autorisation pour un maïs transgénique qui résiste au stress hydrique. Donc voilà, c'est un maïs qui... quand il y aura moins d'eau, enfin, quel que soit le stress hydrique, continuera de pousser.
Le stress hydrique, ça veut dire qu'il s'arrête de pleuvoir, quoi, c'est ça ?
Voilà, c'est un stress hydrique, c'est un stress lié à l'eau.
Donc,
le maïs a soif. Donc voilà, dans ce cas-là, par exemple, ça peut être il a soif, mais il y a moins d'eau de disponible. Moi, ce que je sais, c'est que finalement, dans les variétés paysannes ou les variétés d'entreprise, il y a beaucoup de différences. Et une des différences, c'est justement par rapport à ça, à cette capacité des plantes à résister à un manque d'eau. Dans le domaine des variétés paysannes, c'est-à-dire celles qui ont toujours été cultivées par les paysans, si on doit faire une différence entre paysans et agriculteurs, par les paysans et tout, et ben c'est des variétés qui se sont adaptées à leur environnement qui a beaucoup varié. Et qui dit environnement qui varie beaucoup, dit aussi conditions climatiques qui varient beaucoup. Donc par exemple, ça va être des plantes qui ont des longues racines. Qui dit des longues racines, ça veut dire qu'elles vont profond dans la terre, leurs racines. Alors profond, tout est relatif, hein. Mais enfin, en tout cas, elles vont profondément dans la terre. Allant profondément dans la terre, ces plantes-là ont accès à de l'eau qui peut être piégée sous forme d'humidité, pas une nappe d'eau, quoi, hein, mais sous forme d'humidité présente dans la terre. Les variétés industrielles, elles, elles sont faites bon, dans les champs, mais voilà, elles sont produites chaque année de manière industrielle. Elles ont moins cette adaptation à leur environnement. C'est plus, on le sait, avec les intrants, les herbicides, pesticides, tout ça, que, ou fongicides, que c'est l'environnement qu'on essaye d'adapter à ces variétés-là. Et il se trouve que ces variétés, bon, dans, chez certaines plantes, elles ont des racines beaucoup plus petites. Donc qui dit racines beaucoup plus petites, dit en cas de stress hydrique, une capacité de faire face à un manque d'eau beaucoup plus faible, parce que bah, les racines vont chercher l'eau moins loin. BASF et Monsanto, voilà, alors, le nouveau maïs transgénique qui vient d'avoir une autorisation aux États-Unis, ils ont modifié la plante pour faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire qu'en cas de manque d'eau, la plante continue à grandir. Alors moi, instinctivement, je me suis dit, oula, bah, disons, si j'arrêtais de filer à manger, par exemple, à mon gamin, mais je l'avais modifié pour qu'il continue à grandir, il y aurait peut-être un souci. Bon, là, je ne doute pas que... faut quand même reconnaître aux entreprises que généralement, quand elles veulent commercialiser un truc, au moins ce sur quoi elles le commercialisent, ça marche. Donc là, je pense que ça marche. Mais voilà, c'est vrai que mon réflexe a été de me dire, tiens, c'est marrant, parce que moi, dans le boulot, avec les gens que je côtoie, ce que j'ai appris, c'est que cette résistance au stress hydrique, si on avait des plantes qui avaient des racines plus longues, comme les variétés paysannes, on n'aurait pas besoin de les modifier. Oui, donc d'accord. Encore une fois, on revient sur cette question de, ouais, les OGM, très bien, mais finalement, en bout de course, l'intérêt, vraiment, il est pour qui ? Le modèle agricole, aujourd'hui, il se développe pour qui ? Et c'est toute la problématique des brevets sur le vivant, des certificats d'obtention végétale. Là, l'Assemblée nationale, fin 2011, a voté une loi qui fait que les agriculteurs, pour 21 espèces de plantes qu'ils cultivaient, il y avait une tolérance, un privilège de l'agriculteur à pouvoir ressemer, faire des semences de ferme, c'est-à-dire à acheter une semence industrielle et puis pouvoir la replanter l'année d'après. Donc déjà, moi, de manière naïve, ce qui m'a toujours frappé, c'était de me dire que finalement, le fondement même du métier de paysan, qui est de cultiver des plantes, d'en faire, prendre une partie de la récolte, d'en faire des semences, de les replanter l'année d'après... Bon, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est un privilège. C'est-à-dire, ce qui a construit l'agriculture est devenu aujourd'hui un privilège. Donc déjà, la rhétorique montre comment le système a changé. Et ce privilège, aujourd'hui, finalement, ce vote de l'Assemblée nationale sur la loi n'a pas changé énormément de choses par rapport à ce qui existait. Mais, si vous voulez, pour que les agriculteurs soient amenés à payer... le droit de faire des semences de ferme, il faudrait que les entreprises aient les moyens techniques de prouver qu'ils ont des contrefaçons dans leur champ. Or, elles n'ont pas ces moyens techniques avec le certificat d'obtention végétale. Mais là, ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est qu'elle a voté un texte qui ouvre la porte à une sorte de contribution spontanée des agriculteurs. C'est-à-dire, pour le blé, par exemple, vous avez la contribution volontaire obligatoire. C'est-à-dire que volontairement, mais obligatoirement, les agriculteurs, quand ils achètent des semences de blé, dedans, il y a une partie qui est les royalties que les entreprises qui font du blé, des semences de blé, vont toucher.
Oui, oui.
Voilà. Bon, là, on a une porte législative qui s'est ouverte là-dessus. Ce modèle agricole-là, voilà, c'est ce que m'interroger sur les impacts sur la santé et l'environnement. Moi, je vous disais qu'aujourd'hui... J'ai le sentiment que ce n'est pas le point le plus important à questionner, parce que le point le plus important à questionner, c'est cette notion d'un modèle agricole qui vit avec une propriété industrielle sur le vivant, que ce soit un brevet, un certificat d'obtention végétale. Et avec le fameux débat sur les OGM cachés, dont on parlait tout à l'heure, il est simple. Hein, c'est en Europe, il y a une législation sur les OGM parce qu'il y a eu un débat public. La société civile a dit, nous, on ne peut pas sans législation consommer des OGM. Donc, on veut un étiquetage. On a un étiquetage, on veut que les OGM soient détectables et traçables le long de toute la chaîne pour pouvoir assurer cet étiquetage, ça le sera. On veut que les OGM soient évalués avant autorisation, pour savoir s'il y a des risques sur l'environnement ou la santé. On a eu cette évaluation. Voilà, il y a eu un arsenal législatif de mis en place, qui est très contraignant pour les entreprises. Mmh. C'est-à-dire, les entreprises, elles ambitionnaient d'avoir juste les coûts de recherche et développement. Et puis, à partir de 2001, elles ont eu les coûts de demande d'autorisation. Qui, alors, il y a plein de chiffres qui circulent. Moi, le dernier que j'ai vu, c'est que c'est 8 millions d'euros par dossier. Donc, c'est quand même une petite somme. Mmh. Voilà, les OGM cachés aujourd'hui, c'est juste que les entreprises ont des nouvelles techniques de biotechnologie au nom... tous aussi barbares, plus barbares les uns que les autres, hein, que ce soit, alors mutagénèse c'est le plus connu, les plantes mutées, mais ça va être méthylation de l'ADN, amélioration inverse, nucléase à doigt de zinc, bref, je vous passe les meilleurs. Quel est l'avantage de ces techniques, juste pour finir, oui, pour que les gens comprennent pourquoi certains parlent d'OGM caché, c'est que ces techniques, on n'est pas encore sûr qu'elles donnent des OGM. Ou du moins, on n'est pas encore sûr que selon la définition législative d'un OGM, les produits, les plantes qui ont été modifiées avec ces techniques soient des OGM. Même si tout un chacun peut considérer que bah, quand on manipule le génome, c'est un OGM, point. Bah non, les choses ne sont pas si simples que ça. Donc voilà, les entreprises ont développé des techniques, il y en a 7 ou 8, qui font qu'on parle de contournement de la loi, parce que c'est des plantes qui pourraient être modifiées génétiquement, comme les plantes transgéniques, mais pas assujetties. Donc demain, à la loi, donc demain, pas d'étiquette, pas d'évaluation, rien de tout ça. Donc voilà, c'est les OGM, mais c'est des plantes brevetées.
Très rapidement, pour conclure, dans les autres pays, ils ont une liberté d'action complète. C'est la fête du slip, là, en Amérique du Sud
Ils sont quand même un peu contraints. Oui. Alors, c'est vrai que l'Union européenne a la loi la plus définie comme étant la plus contraignante, mais il ne faut pas croire. En Inde, ils n'y arrivent pas tant que ça.
D'accord.
L'Inde a pris un moratoire sur l'aubergine BT après un gros débat public aussi.
D'accord.
Ce qui est rigolo. En Chine, bon, c'est la Chine. Hein. À part des spécialistes, moi, je n'ai pas encore trouvé des gens qui soient vraiment capables de m'expliquer comment fonctionne la Chine. Donc, il se trouve que la Chine a des OGM, mais elle a ses OGM à elle. C'est-à-dire, pour les entreprises, c'est dur de pénétrer le marché chinois. Voilà, elle a ses OGM à elle. Aux États-Unis, il y a plein de choses de rigolotes à raconter. Enfin, rigolotes entre guillemets. Mais la loi est beaucoup moins contraignante. Il n'y a pas d'étiquetage, par exemple. Il est en train de se mettre en place potentiellement. On n'est pas encore sûr, mais il n'y a pas d'étiquetage. Vous allez aux États-Unis.
Il y a une résistance qui démarre ou
qui est là depuis plusieurs années. Mais les États-Unis, vu d'Europe, ça nous a toujours été présenté comme le pays qui cultive des OGM, qui les a acceptés depuis longtemps. Moi, pour être en relation avec pas mal d'acteurs aux États-Unis. Il y a des procès, il y a la société civile qui se bouge, il y a des agriculteurs qui en ont un peu ras-le-bol.
Il y a des agriculteurs qui ont vu leurs champs contaminés par des OGM. Hein. Ça, c'est un autre point qu'on n'a pas du tout abordé et qui est très grave également.
Et ben, je vais renvoyer sur votre site, Eric Meunier. C'est c'est quoi l'adresse du site? Moteur de recherche.
C'est www.infogm en un seul mot, infogm.org.
D'accord. Donc je renvoie nos auditeurs à ce site pour en savoir beaucoup plus. C'est un gros portail avec beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités. Et on va se quitter. Je rappelle que l'émission est rediffusée demain entre 11h et midi sur cette même antenne, Fréquence Paris Pluriel, qu'on pourrait réécouter sans doute à partir de ce week-end sur notre site zoom-ecologie.net, l'émission dans son intégralité, que vous pouvez nous écrire par email zoomecolo3@gmail.com. Je remercie infiniment nos invités, Eric Meunier d'InfoGM, merci beaucoup, June et Jim, Marion et Borja, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je renvoie aussi sur votre site, c'est plutôt un MySpace.
June et Jim.com.
Il n'y a pas plus simple. Merci Laurence d'être venue. Salue Sophie qui était absente aujourd'hui. Merci Cyril, beaucoup. Voilà, c'était Laurence Huguet, Alexandre Ribot, Zoom Écologie, le troisième jeudi. On se retrouve le jeudi 17 février. Merci à tous, à très bientôt.